Chers auditeurs de Radio Courtoisie, il est 19h30, c'est l'heure de la deuxième partie du Libre Journal du lundi soir, puisque nous sommes lundi, ça montre une grande logique dans cette radio. Je vous présenterai mon invité de ce mois-ci tout à l'heure, et vous allez voir que nous allons nous régaler, c'est le cas de le dire. Et en attendant, nous allons joindre Patrick Simon pour la chronique du Grand Large. Bonjour Patrick, bonsoir Patrick.
Bonsoir Thierry.
Alors, on me dit que vous revenez de Singapour.
Oui, tout à fait. Je reviens de Singapour. J'étais pendant une semaine et donc je viens d'arriver là hier. Et alors, je voulais profiter de cette chronique pour observer plusieurs divergences entre la France et Singapour et aussi plusieurs ressemblances. Parmi les ressemblances, vous avez l'enseignement. Ils ont adopté là-bas les anciennes méthodes françaises d'enseignement, celles qui nous faisaient considérer autrefois comme le numéro un mondial pour les écoles primaires et secondaires. Et pour Singapour, ça a marché, ils nous ont copié, puisque aujourd'hui l'enseignement à Singapour est classé comme le meilleur du monde. Et nous, malheureusement, nous avons abandonné ces méthodes dans les années 70 avec la réforme Abi, le collège unique et toute cette uniformisation de masse qui nous a fait descendre dans l'échelle des niveaux. Donc, voilà un exemple qui montre que Singapour a su s'inspirer de vieilles techniques qui ont été éprouvées par le temps. Mais ils sont aussi très modernes. Par exemple, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a très peu d'embouteillages d'automobiles. Alors qu'à Bangkok, où j'ai été aussi, également, il y a beaucoup d'embouteillages. À Singapour, il n'y en a pas beaucoup, même aux heures de pointe. Pourquoi ? Comment y sont-ils parvenus ? Eh bien, ils sont parvenus par la technique électronique. Alors, ne me demandez pas, moi qui suis un homme historique.
J'allais vous le demander.
Non, je serais incapable de vous dire. Ce que je sais, c'est que grâce à la technique électronique, ils y sont parvenus. Il y avait, je crois, un certain Cédric Villani, un mathématicien qui faisait de la politique et qui avait un projet autrefois de tout ça, et qui rend possible de fluidifier le trafic électroniquement, c'est-à-dire d'orienter les voitures sur d'autres rues. Enfin, bon. Ce serait possible en France, mais les maires socialo-écologistes des grandes métropoles ont préféré opter pour une politique primaire de persécution des automobilistes. C'est dommage, là encore. À Singapour, les 35 heures n'existent pas et les gens sont libres de travailler autant de temps qu'ils veulent. Enfin, il y a quand même un maximum, un grand maximum que nous avons d'ailleurs aussi en Europe, mais il n'y a pas de rationnement du travail. La fiscalité est très basse, 10% du revenu seulement. Et le résultat ne se fait pas attendre, les gens sont très travailleurs et dynamiques, ils ne perçoivent pas, comme chez nous, le travail comme une corvée. Et puis alors, il n'y a pas non plus de taxation sociale du travail. Chacun prend une assurance privée, comme dans beaucoup d'autres pays européens, d'ailleurs, sauf le nôtre. Il y a aussi peu de réglementations ou de normes qui paralysent l'initiative, comme en Europe, je pense au pacte vert. Et de ce fait, ça permet des investissements et des projets. Je vous donne un exemple. Le port de Singapour, j'y allais moi pour ça, qu'on m'a fait visiter, a adopté l'automatisation des conteneurs. Alors ça, je l'ai vu de mes propres yeux, on n'a plus besoin d'une manutention humaine sur le quai. Les conteneurs se déplacent tout seuls pour les déplacer depuis le terminal portuaire jusqu'au navire. Et c'est fait par des gens qui sont dans des bureaux et qui sont moins nombreux que les dockers, et qui impulsent les ordres depuis leur bureau. Alors je pense qu'un jour ça viendra dans les ports français, mais à mon avis c'est pas pour demain. La faiblesse des taxes à Singapour donne des résultats positifs et attire les investissements. Je vous donne un exemple de l'autre approche, celle qui est socialiste et que la France a suivie. Au lieu de baisser les taxes, on en a créé de nouvelles. Exemple, la taxe de 2 euros sur les petits colis venus de Chine et qui devaient arriver à un aéroport dans la Marne. Eh bien, le résultat de tout ça, c'est que cet aéroport, je crois qu'il s'appelle Vatry, oui, reçoit beaucoup moins de colis. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que depuis qu'on a mis la taxe de 2 euros par colis, les colis en question, ils n'ont pas disparu, mais ils sont déchargés à Anvers, à Amsterdam, à Liège, qui, eux, n'ont pas cette taxe. Et c'est là encore un mauvais choix que nous avons fait, et parce que l'aéroport de la Marne, là, que j'ai indiqué, connaissait une forte croissance. C'est désolant. C'était un doublement du chiffre d'affaires. Et après la taxe de 2 euros, il y a eu une chute des deux tiers. Et les cargaisons, ils sont déchargés dans des aéroports d'autres pays, puis ensuite ils sont transportés par voie routière au point final en France. Bref, la taxation unilatérale, alors que les concurrents n'ont pas cette taxation, c'est un moyen de tuer l'activité, hein, tuer les emplois de l'aéroport simplement pour empêcher l'importation chinoise. Bon, alors je sais bien que l'importation chinoise, on n'aime pas et que ça serait mieux de fabriquer français, mais enfin, pour le moment, les emplois qui sont perdus, c'est ceux de l'aéroport de la Marne. Alors, Singapour a compris que la taxe n'était pas la solution, mais que c'était le problème, d'où sa réussite. Le problème de la concurrence est d'ailleurs mondial. Je donne un exemple encore plus frappant que je tire d'un excellent livre qui s'appelle « Matière vitale » d'un certain Ed Conway. Alors, il donne l'exemple de la raffinerie de Wesseling en Allemagne, qui a une particularité, elle peut traiter une centaine de variétés de pétrole différents venant de beaucoup d'endroits du monde. Je cite Conway. La plupart des raffineries américaines se sont spécialisées dans les pétroles lourds et sulfureux. C'était pas une mauvaise idée tant que le pays de la raffinerie, pouvait se reposer sur le pétrole de ses voisins. Mais depuis la découverte du pétrole de schiste, la situation a changé. Les raffineries américaines sont incapables de le traiter, le gaz de schiste. Il doit donc être expédié en Europe ou en Asie. Fin de citation. Et donc, en particulier, les Américains, qui sont pourtant très protectionnistes, se voient obligés de réexpédier leur pétrole à cette raffinerie de Wesseling en Allemagne, parce qu'elle est la seule capable de distiller tout type de pétrole, ce que ne peuvent pas faire les raffineries américaines. Et donc, les pétroles bruts du Texas, par exemple, ils seront transformés à Wesseling, en diesel pour les camions, en train pour les trains aussi, et en essence pour les voitures, en kérosène pour les avions, en plastique pour l'industrie chimique, en asphalte pour les routes. Et donc, Wesseling a trouvé la solution, aptitude à transformer tout type de pétrole et pas de spécialisation. De même, à Singapour, le port a joué une carte, celle de la rapidité. C'est à Singapour qu'il y a le plus grand chantier de réparation navale. Il s'appelle Keppel. Il répare les pétroliers. Et pourquoi tout le monde va là ? Eh bien, parce qu'il y a des ouvriers qui font les 3-8, pas seulement les 2-8. C'est-à-dire qu'ils se relayent constamment. Résultat, les navires, vous savez que l'immobilisation d'un navire, ça coûte très cher. Vous imaginez, et le prix d'une cale sèche dans un chantier, ça coûte aussi très cher. Donc, plus c'est fait vite, et moins on perd de l'argent. Donc, les navires sont réparés en un temps record. Les conteneurs, comme je l'ai dit, les porte-conteneurs sont livrés en un temps record grâce à l'automatisation. Et ça veut dire qu'ils ont joué la carte de la rapidité. Tous ces exemples que je donne, et j'en aurai fini, c'est pour montrer que la concurrence mondiale exige une adaptation permanente, aussi bien technologique que fiscale. Et je conclurai avec la phrase de Frédéric von Hayek, « Il faut voir la concurrence comme un processus qui permet aux hommes d'acquérir plus de savoir, plus de connaissances. » C'est pas mal comme, comme sentence.
Ah oui, et on va la retenir, on va la répéter, puis Vatry, c'était quand même...
J'avais ça sur un t-shirt, mais malheureusement,
oui.
Il est troué.
Oui, mais...
oui, c'est une belle phrase, je crois.
Oui, je crois, et sur Vatry, ça fait déjà plusieurs mois que le gouvernement avait été alerté par le président du conseil départemental, et évidemment, oui. Le ministre des Transports nous a dit la semaine dernière qu'il ne renoncerait pas à sa taxe. Donc voilà, comme on n'avait pas renoncé aux 80 km/h, comme on n'avait pas renoncé aux ZFE, etc.
Mais pourquoi les Français font-ils toujours les mauvais choix ? C'est ça que j'arrive pas. Quand on se balade dans le monde, on voit des gens tout à fait différents de nous, mais qui ont fait d'autres choix, et parfois même des choix français d'ailleurs. J'ai du mal à comprendre.
Ah, peut-être un peu le niveau de notre personnel, mais ça c'est un autre sujet. Ils ont oublié de réfléchir. Tous les offices d'évaluation scientifique de l'Assemblée nationale sont occupés par des gens qui n'y connaissent rien. Et donc forcément.
Mais c'est ça le problème. Il y a trop de politique et d'État en France.
Ouais, je croyais que gouverner était prévoir. Ben, la preuve que non.
La preuve que non, comme vous dites.
Merci Patrick pour cette chronique du grand large et je crois qu'on vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Bonne soirée.
À la semaine prochaine. Au revoir Thierry.
Deuxième partie donc du Libre Journal du lundi soir avec notre invité de ce soir, Jonathan Sixou, qui est un essayiste, un historien. Il ne voudra pas que je dise qu'il est historien, mais ayant lu ses livres, je peux en témoigner. Il est aussi journaliste, rédacteur en chef des pages Culture de Causeur. Vous le voyez assez souvent sur CNews, j'ai l'impression plutôt vers le midi, vous êtes plutôt un couche-tôt ou...
Ça dépend des semaines. Vous
savez. Ça dépend des semaines. Alors je l'ai invité aujourd'hui, il publie un livre absolument épatant qui s'appelle « Triompher en festin, une histoire de France en 20 repas ». Alors on va le voir, ça n'est pas un livre sur la gastronomie. Il est un peu autodidacte, on va dire, dans tous ces domaines, mais on va aussi en parler un peu parce que j'aime bien que nos auditeurs sachent à qui ils ont affaire. Et puis il a déjà publié plusieurs ouvrages, Vivre en ville, Capital, aux éditions du Cerf en 2021. Je vous en parle parce que je viens de le lire et je le trouve absolument épatant et extraordinaire. Rayé de la carte sur les traces du Louvre oublié. Il a aussi collaboré à plusieurs ouvrages collectifs, dont la fameuse Nouvelle Histoire de France dirigée par Éric Anceau que nous avions reçue il y a 3 mois à peu près, où il a assuré quelques pages, même de nombreuses pages, sur la question des loisirs. Alors, vous êtes un peu éclectique aussi. Alors, j'ai regardé un peu votre CV, si je puis dire, et puis vous-même, vous m'avez, lorsqu'on a un petit peu discuté en préparant tout ça, vous m'avez dit que, en fait, vous aviez assez vite abandonné vos études. Alors j'aimerais que vous me racontiez ça, parce que je trouve ça très vivifiant et très encourageant pour tout le monde, parce que, vu maintenant les fonctions que vous occupez, les livres que vous écrivez, l'école n'est pas forcément la solution à tout.
Non, pas forcément. Vous avez parfaitement raison, Thierry Lenz. L'école dans le meilleur des cas, joue un rôle évidemment crucial sur la constitution d'un jeune individu, sur la vie en groupe notamment, je pense. Mais dans mon cas, tout ce que j'ai le mieux appris, je l'ai appris en dehors de l'école. Peut-être... Non pas 1000 raisons, mais quelques raisons propres à un environnement familial où j'ai toujours été entouré de livres, d'œuvres d'art, ce genre de choses qui mènent qui appellent d'une certaine façon, dès lors qu'on est un enfant curieux, à vouloir en savoir davantage. On m'a peut-être enseigné la curiosité à la maison.
Oui.
Mais c'est pas l'école qui l'enseigne le mieux, la curiosité.
Alors vos parents n'étaient pas contents, j'imagine.
Mes parents m'avaient dit « passe ton bac d'abord ».
Voilà. Bon, ça vous l'avez fait quand même. Hein. Oui, 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 oui.
Et ensuite, c'était plus aléatoire, dirais-je, dans le sens où mes goûts personnels m'ont fait m'inscrire, m'ont poussé à m'inscrire après le bac à la Sorbonne pour suivre le premier cycle d'histoire de l'art. Et là, je suis tombé de très haut. J'avais modestement quelques notions, déjà quelques périodes particulières que je connaissais un petit peu, que je commençais en petit amateur nouveau à éclairer. Et j'ai découvert un environnement horrible. Première année d'histoire de l'art, vous croisez évidemment, il y en a, et heureusement, des étudiants chevronnés, passionnés, et qui font ensuite de brillantes carrières. Mais vous avez aussi, lors de cette première année de fac, des individus qui ont raté sociaux, et le réceptacle de ceux qui n'ont pas été pris en sociologie finissent en histoire de l'art. Ça vous donne un peu le truc. Ouais. Et j'ai surtout été marqué par le premier cours en amphi. Il faut imaginer l'amphi de Tolbiac, ça correspond à peu près à 700 places, c'est grand. Et c'était un professeur d'histoire de l'art, je vais le nommer.
Allez-y, ben. Enfin, il nous écrira s'il n'est pas
été,
content.
Il a été après un contributeur du journal Le Monde. Il a écrit beaucoup de critiques artistiques dans Le Monde pendant les décennies suivantes. Premier cours magistral, il projette derrière lui, sur le grand mur en rétro-projection, deux tableaux. D'un côté, je vous parle de mémoire, c'était il y a 25 ans, mais ça m'a marqué.
Il faut dire, vous avez 44 ans, hein, c'est ça?
Bientôt 45.
Même. Bientôt 45.
Et d'un côté, un portrait d'Eugénie par Winterhalter, un autre, un portrait de Dora Maar de Picasso, la période cubiste, la plus représentative. Et les premiers mots du prof sont « Je n'ai pas besoin de vous dire lequel de ces tableaux est de l'art ».
C'était Winterhalter, j'imagine.
Eh ben non, la bouche de ce professeur, ça ne l'était pas. Et enfin bref, ça m'a un peu, donc j'abrège le récit, mais c'était, je me suis accroché 6 mois et je suis parti faire ma route ailleurs, où là j'ai passé presque 2 années formidables, où je me suis inscrit en auditeur libre à l'École pratique des hautes études, qui est une enclave du savoir exceptionnel. Et j'ai souvenir d'avoir suivi les conférences d'un très brillant chercheur qui s'appelle José Lott. Et j'ai suivi ses conférences consacrées à l'estampe gravée d'après Raphaël au XVIe et XVIIe siècle. Autant vous dire que l'ambiance était totalement différente. Il n'y avait que même pas 10 participants à cette conférence. Et les autres inscrits étaient des conservateurs spécialistes de la gravure allemande, souhaitant se spécialiser dans la gravure italienne, gravure française souhaitant se spécialiser dans la gravure. Enfin voilà. Autant vous dire qu'il y avait un sentiment, une réelle émulation intellectuelle autour de cette table lors de ces conférences qui m'ont vraiment nourri. Mais je ne l'ai jamais sanctionné par un diplôme universitaire, ce passage.
Oui, mais le PHE est une maison absolument extraordinaire qui avait été créée pour que des non-universitaires enseignent à des non-bacheliers, enfin au départ. Oui. Et en réalité, bon, l'université a mis quand même la main dessus, mais vous me confirmez qu'il y a encore quelques havres oui. Où il est bon d'aller apprendre. Alors après l'écriture, ça vient comment? Parce que je vois que votre premier ouvrage, c'est 2017, donc... Vous aviez 36 ans, c'est ça?
Oui, exactement.
Et donc comment est-ce que vous avez eu envie d'écrire? Et disons-le tout de suite, vous écrivez beaucoup sur les villes, et bien sûr particulièrement sur Paris.
L'écriture est... J'ai toujours eu envie d'écrire. Il y a toujours eu cette volonté intérieure, une prétention au sens propre du terme. Je voulais vraiment faire ça. Dans ma profession de journaliste de presse écrite, évidemment, donc par définition, je me devais de d'écrire. C'était sur des sujets très divers, très variés, et pas sur forcément uniquement des sujets qui pouvaient m'intéresser. J'ai commencé avant 2017 avec les ouvrages collectifs que vous avez cités en début d'émission. Notamment, je garde d'excellents souvenirs de mes collaborations avec Alexandre Gady. C'est un collectif de quelques auteurs écrit sur l'hôtel de la Marine, à une époque où l'avenir de l'hôtel de la Marine était incertain. On ne savait pas s'il allait devenir un hôtel de luxe, un centre commercial pour milliardaires, ou bien rester dans le giron de l'État et devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui. Donc on a publié ce livre à ce moment-là pour défendre ce patrimoine. Et dans la foulée, nous avons également commis un autre ouvrage, toujours aux éditions Nicolas Chaudin, qui était une très belle maison, consacrée à l'hôtel de Brienne. L'hôtel de Brienne qui est le siège du ministre de la Défense, et même plus le siège du ministère de la Défense, qui est, vous le savez, parti à Ballard dans le 15e, mais le ministre, les bureaux du ministre demeurent à l'hôtel de Brienne, un endroit que vous devez connaître peut-être.
Ah oui, ancienne propriété de Lucien Bonaparte et de Madame Mère.
Exactement, et qui décèle, si d'un mot, peut-être la plus belle pièce de Paris. Je l'ai connue à la faveur de la rédaction de ce livre, parce que nous avons eu le droit de nous balader librement dans toute la partie de l'hôtel. Et jusque dans les appartements privés du ministre. Et là, quand vous poussez une porte dérobée dans une boiserie, vous avez le boudoir de Laetitia, qui est une pièce de poupée qui fait quelques mètres carrés, on ne tient pas à 5 dedans, avec tout un mobilier réalisé sur mesure qui est toujours là, en place, avec dans une armoire forte, le service à thé, toutes les cuillères, l'argenterie de Madame Mère. Et c'est très émouvant, comme tout dans des teintes gris et or. Et c'est une toute petite pièce que personne ne peut visiter, par définition.
Même pendant les journées du patrimoine, puisqu'il faut traverser la chambre du ministre pour y aller. Donc, évidemment. Bon, il ne dort pas très tard, mais enfin quand même. Bon.
Dans le doute.
Alors, on va passer à table. Hein. Il est 19h51 sur Radio Courtoisie. Avec cet ouvrage étonnant qui nous raconte un peu, non pas toute l'histoire de France, mais des grands moments de l'histoire de France à travers des banquets, à travers des événements festifs qui ont été organisés par à la fois les souverains, mais aussi des particuliers français. Alors d'où vient l'idée? Ça vient que, parce que vous aimez manger, vous fréquentez les restaurants,
exactement. j'aime manger, j'aime cuisiner, j'ai eu dans une autre vie journalistique aussi la charge d'être chroniqueur gastronomique. Donc c'est un univers que je connais un peu, que j'aime beaucoup. J'aime tout autant l'histoire de France. Et lors d'une conversation avec Benoît Hiver, le directeur des éditions Perrin, il y a quelques années, est née cette idée de lier ces deux centres d'intérêt et de finalement les fusionner et de raconter une histoire de France à travers une histoire de la gastronomie. Il y a ces moments que j'ai sélectionnés dans l'histoire qui correspondent à un moment politique, à un moment historique, mais aussi à un moment marquant dans l'histoire de la gastronomie. Et c'est comme ça que ces deux...
Ce qu'on peut dire, dis-moi ce que ton roi mange et je te dirai à quelle nation tu appartiens.
Alors, ça dépend à quelle époque vous posez la question, parce que effectivement, et encore, très tôt dans l'histoire, l'exemple à suivre vient de France. Donc, beaucoup de souverains européens tentent, comme ils le peuvent, d'adopter la mode française, les mœurs françaises, le goût français, plus ou moins brillamment. Et il y a durant la longue période du Moyen-Âge, il y a une sorte de ce qu'on pourrait appeler de premier style international qu'on voit dans l'architecture, quelle que soit l'architecture militaire, avec les châteaux forts, les murailles défensives des villes, mais aussi dans l'architecture religieuse, à travers le style roman et le style gothique plus tardif. Il y a une sorte d'internationalisation de ces styles et également de la table, bien qu'il y a des spécificités en fonction des chasses, en fonction des mets locaux qui ne s'exportent pas évidemment si facilement. Ce qui s'exporte à travers le monde depuis tout temps, ce sont en revanche les épices, ce sont des accommodements de garnitures de plats, mais pas des mets en soi. Donc on peut reconnaître une table royale, ça oui, mais pas forcément la nationalité d'une table royale. Elles vont, ces tables royales, se ressembler pendant des siècles. Le temps de la gastronomie est un temps long. On a mangé à peu près la même chose de l'Antiquité à la Renaissance et de la Renaissance au XIXe siècle. Et finalement, quand on s'intéresse à cette histoire de la gastronomie, on se rend compte que nos mœurs, nos habitudes alimentaires ont été bouleversées ces 100-150 dernières années, comme elles ne l'ont pas été en 2000 ans d'histoire. Et donc la table royale demeure pendant des siècles une table relativement féodale dans ses habitudes, à savoir la profusion de nourriture, qui se traduit par, dans la quasi-totalité des cas, un amoncellement de viande rôtie. Le but étant de montrer, c'est aussi l'un des attributs de sa puissance, c'est d'avoir une table bien fournie et de pouvoir faire étalage de nourriture. C'est une notion qu'on va retrouver très longtemps dans l'histoire, c'est cette notion de gâchis symbolique. Rien n'est gâché, évidemment, mais on apporte à table beaucoup plus de plats qu'il le faut, beaucoup plus de nourriture qu'il y a de convives, même si les convives, alors et pendant quelques siècles, ont un appétit beaucoup plus costaud que le nôtre aujourd'hui. Ça, on pourra parler de l'histoire de l'appétit.
Exercice, peut-être
on
aussi.
On pourra parler de l'histoire de l'appétit, mais c'est intéressant. Ils faisaient beaucoup plus d'exercice. Il suffit de porter une épée pour en avoir une épée féodale pour en avoir une pâle idée. Mais donc ça passe. C'est donc des menus hyper protéinés, comme dirait un nutritionniste aujourd'hui. Beaucoup de viande, très peu de légumes. À la table de festin, à la table de fête. Ce qu'on appelle un bel animal, un animal noble, c'est généralement un grand oiseau, un échassier, c'est un cygne, c'est un paon.
Un âne farci, j'ai vu aussi à un moment donné. Alors, un anon farci
d'anguille. Ça, c'est, c'est un plat que le roi Dagobert aurait refusé de manger un jour où il s'était mis en tête de faire pénitence. Et il aurait refusé cet anon farci pour lui préférer un brouet d'herbe.
J'aimerais bien voir ça, mais alors on voit on mangeait des choses qu'aujourd'hui on ne mangerait pas, du cygne, du héron, peut-être un peu des paons. Et puis on mélange le sucré, le salé, enfin dans les temps anciens, le thon ou poire, j'aimerais bien goûter ça, le bouillon au lard parfumé d'amandes, de cannelle, de gingembre, de girofle, de cardamome, de safran et de verjus.
C'est pas mal, ça.
Ça doit être quelque chose, oui.
Ce sont effectivement des recettes qui remontent à Apicius, donc on est là dans l'Antiquité romaine. Mais ce qui est intéressant, et c'est pour ça qu'il en est question dès le début du livre, c'est que cette influence antique, comme je vous le disais, elle va infuser pendant des siècles. Et Taillevent, qui publie le premier livre référencé d'histoire, de livre de recettes dans l'histoire de France, dans le dernier quart du XIVe siècle, écrit quasiment 1000 ans après Apicius et reprend certaines associations d'Aigredoux, certaines associations qui pourraient pour nous paraître curieuses, telles que cette poire et ce thon. Ce sont vraiment des recettes et des influences qui arrivent en ligne droite de l'Antiquité. Ouais. Et c'est des recettes qui vont perdurer avec aussi des ajouts parfois excessifs d'épices, pour une raison qui n'est pas forcément celle qu'on croit. Une sorte de légende populaire veut que c'est pour cacher la viande pourrie, le goût d'un plat avarié. C'est pas uniquement ça, et je pense que ça ne l'est pas du tout, parce que le palais demeure quand même quelque chose de fin, surtout si on est à des tables nobles, princières, voire même royales, mais ça permet de démontrer sa richesse. Et c'est un côté bling-bling de l'époque, si vous voulez. Plus vous êtes riche, plus vous mettez
d'épices,
parce que tous ces produits viennent de l'autre bout du monde. Il faut imaginer que la muscade vient de Sumatra. Vous êtes au XIVe siècle à Paris, il faut imaginer qu'on vous apporte des noix de muscade de Sumatra. Il n'y a même pas encore réellement de carte de planisphère de map monde pour savoir où est planté Sumatra sur Terre à ce moment-là. Et donc, c'est gorgé d'un exotisme et d'un raffinement inouï. Et donc, c'est aux tables des plus riches qu'on mange le plus épicé. Ce qui ne veut pas dire, pour le coup, que ce soit très bon, d'ailleurs.
Ouais. Alors, je vois, vous, tout au long des siècles, et même, on va dire, même il y a encore 50 ou 60 ans, bon, on mange énormément de poissons, par exemple, y compris du poisson de mer. Comment est-ce que ça se transporte, ça se conserve? Est-ce qu'on a déjà des techniques? Ou alors, est-ce qu'on le mange dès qu'il arrive à Paris? Il faut vite se jeter dessus
C'est ça.
C'est ça.
Il y a deux façons. Vous avez, alors ça, c'est aussi c'est intéressant de constater que c'est une chose qui a quasiment disparu de nos habitudes alimentaires en France, du moins. C'est le poisson de rivière. Et vous avez sur les marchés des stands de poissonnerie d'eau de mer et d'autres d'eau douce. Et ces poissonniers de rivière vendent des dizaines d'espèces de poissons que nous ne consommons plus parce que les rivières françaises ont perdu la plupart de leurs poissons, finalement. La Le poisson est servi. Là aussi, c'est un mythe que je me permets de d'égratigner. Le poisson est servi frais et vendu frais. Pourquoi? Parce que la France regorge de milliers de cours d'eau et les grandes villes sont construites sur des fleuves. Donc vous avez des systèmes de transport de barges qui ont des sortes de viviers en fond de cale alimentés par l'eau de la rivière, ce qui permet d'apporter les poissons vivants sur les étals des marchés ou morts depuis très peu de temps. Et donc ce qu'on appelle la marée est une marée fraîche. Et après, il y a une vieille tradition, ça c'est immémorial, ça vaut aussi pour la viande, c'est la salaison. Et le poisson salé, on en mange beaucoup, parce que c'est un poisson, par définition, qui peut se conserver très longtemps. On mange aussi, on n'en mange quasiment plus en France, mais les pays du Nord, je pense à la Suède notamment, continuent d'avoir cette tradition de manger du hareng frais. Et la mer du Nord a été un vivier. À l'échelle de l'Europe, inimaginable pendant des siècles, pour alimenter beaucoup de marchés d'Europe du Nord, principalement évidemment en hareng. Et donc le poisson. Et pourquoi il y a aussi autant d'offres de poissons? Parce qu'on en mange beaucoup plus. C'est pas uniquement le poisson n'est pas uniquement servi à toutes les tables, sans exception le vendredi, mais il y a également beaucoup plus de périodes de carême imposées par l'Église durant des siècles, qui alternent avec la période de charnage, période où on mange de la viande. Et c'est respecté, ce carême est absolument respecté. Ça n'empêche pas de pouvoir l'améliorer quand on a les moyens de l'améliorer. Je donne quelques exemples de menus de carême qui
Oui,
sont
qui était.
quand même assez consistants et luxueux. Mais ceci explique le fait qu'il y ait une telle offre, une telle profusion de marées sur les marchés de France et parisiens en particulier.
Alors, vous nous racontez 20 grands moments, on va dire, à la fois politiques et gastronomiques, ou gastronomico-politiques. Et le premier, on va en passer quelques-uns en vue, mais on n'aura pas, bien sûr, on va pas tous le faire, parce qu'il faut aller aux éditions Perrin acheter ce livre Triompher en festin. On va commencer par Saint-Louis, évidemment. On peut pas ne pas commencer par Saint-Louis. Enfin, des agapes qui s'étendent du 9 au 11 décembre 1254. Saint-Louis, encore Louis IX à ce moment-là, a été absent pendant 6 ans. Et il reçoit Henri III, le roi d'Angleterre, alors apparemment pour se rabibocher ou essayer de se mettre d'accord un petit peu sur les suzerainetés de l'un par rapport à l'autre,
C'est ça.
etc.
On pourrait appeler ça une première entente cordiale.
Voilà. Enfin, qui ne sera pas tant que ça,
Non.
finalement, oui. Alors donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce roi qui vient donc de passer 6 années à l'étranger, dont au moins 4 en captivité, il rentre, il a faim alors, et il appelle immédiatement son camarade anglais, et il lui dit
C'est-à-dire qu'en plus,
passe manger à la maison.
Saint-Louis, encore Louis IX, comme vous le précisez, et Henri III sont beaux-frères. Ils ont un lien de. Ils ont un lien de non pas de sang, mais de parenté par les mariages. Ils ont tous deux épousé deux sœurs. Et il se trouve que quand le roi de France revient sur ses terres, le roi d'Angleterre, lui, est en Aquitaine, qui sont à ce moment-là des territoires anglais. Mais pour rentrer chez lui, Henri III n'a pas envie de prendre la mer depuis l'Aquitaine. Il a envie de traverser par les terres et faire la traversée. Du côté de la Manche, de Douvres, là où c'est évidemment le plus court. Et il veut, pour cela, ça serait l'occasion pour lui, en plus, d'aller visiter les tombeaux de famille qui sont du côté
Fontainebleau, ouais.
des abbayes normandes. Mais pour ça, il faut demander l'autorisation au roi de France de traverser ses terres. L'autorisation lui est évidemment accordée. Je dis évidemment parce qu'il y a cette idée de faire, de renouer un axe franco-anglais. Et l'arrivée à Paris est marquée le 9 décembre par la foule déjà de la cour d'Henri III. Vous imaginez cette cour qui est sur les routes de France et de Navarre depuis au moins 8 mois. Ce sont des milliers de chevaux, de bœufs, de carrioles, de Et c'est un déménagement continu et considérable. Et il va y avoir sur 3 jours, plusieurs périodes de rencontres, de fêtes et de festins. Il est intéressant de remarquer que Les deux vont se recevoir chez l'un et chez l'autre durant ces 3 journées. Et c'est aussi l'occasion de tournois, de joutes, de visites déjà de Paris. On fait visiter Paris à son invité de marque. Occasion aussi pour le roi d'Angleterre de régler plein de choses très ennuyeuses pour nous aujourd'hui. Quand on regarde quand les chroniqueurs de cour nous racontent ces journées parisiennes, elles sont occupées à régler des histoires notariales, de régler des histoires de dettes des uns et des autres.
C'est tout ce qui nous reste, hein, de la documentation.
C'est un métier de souverain, du moins à ce moment-là. Et il est marquant de voir, et ça c'est souligné dans d'autres repas par la suite, l'importance du divertissement durant le repas. Un repas de fête, un festin, un banquet, n'est pas uniquement le plaisir de la table, c'est le plaisir c'est un plaisir musical, c'est un plaisir théâtral, que ce soit lié ou non à des textes saints. Il y a toujours des moments chantés, des moments joués, des scénettes, des pièces de théâtre. Et c'est évidemment le cas lors de ces trois jours de banquet. Ce qui est très intéressant, c'est la thèse de Jacques Le Goff, que je reproduis, le grand médiéviste, parce qu'on sait plein de choses sur ces réunions. On sait même la décoration de certaines salles, les blasons qui sont au mur, le plan de table dans certains cas. Mais le repas le plus important, donc le lendemain de l'arrivée d'Henri III à Paris, c'est le grand banquet au milieu de ce séjour. On sait qui est présent, etc. Et on ignore tout de ce qu'ils ont mangé. Et là, Jacques Le Goff a une thèse qui m'amuse beaucoup. Il dit « L'importance de ce rendez-vous, de ces retrouvailles, était tellement grande que la cour de France et d'Angleterre ont mangé de la viande. Or, on y revient, c'était un jour de carême. Et il y aurait eu une omerta, on aurait caché la réalité du menu pour ne pas donner le mauvais exemple, évidemment. Ce qui montrerait, et c'est la thèse de Le Goff avec un peu d'anachronisme, c'est de dire que c'est peut-être les prémices d'une laïcité qui rentre la cour de France. C'est un peu tôt, là.
Il y en a qui voient de la laïcité partout.
Exactement.
Mais alors, vous donnez quand même une hypothèse sur le menu. Là, je vois les viandes rôties, évidemment, les chapons farcis, les pâtés de pigeons, de chevreau, et encore du pan, encore du cygne, les pauvres bêtes. On est encore là dans une cuisine qui ressemble à celle de l'Antiquité, ou alors on a déjà commencé à créer une cuisine, j'allais dire moderne, mais on ne peut pas le dire puisqu'il y en aura d'autres.
Oui, elle ressemble, oui, exactement. Elle ressemble encore à cette cuisine antique. Cuisine plutôt, c'est là où il y a un changement que j'appelle médiéval, dans le sens où on apporte les viandes rôties, parfois entières. Et ça, ce n'est pas du tout dans les mœurs de l'Antiquité gastronomique. Il faut montrer un animal entier rôti, parfois. Ça peut être un ânon, ça peut être, un bœuf, dans certains cas, mais montrer l'animal entier, ça marque les esprits, ça montre là aussi sa puissance, à tous les sens du terme. Sa capacité à cuire, c'est pas évident de cuire une grosse bête comme ça entière. Et puis il y a aussi une chose qui n'est pas propre à l'Antiquité, mais qui en est un héritage, ce sont les tourtes, c'est-à-dire les pâtés.
J'allais vous parler des tourtes.
Oui, pourquoi c'est un héritage de l'Antiquité ? Parce que de l'Antiquité, c'est tous les hachis, et les hachis qu'on mangeait sous forme de boulettes. Pourquoi ? Parce qu'on a les représentations, on mange dans l'aristocratie, on mange allongé. Ce sont les pauvres et les esclaves qui mangent assis à table chez les Romains. Les grands, eux, mangent allongés. Et pour manger correctement, il faut avoir déjà des choses qu'on n'a pas besoin de découper et des choses hachées, et souvent sous forme de boulettes. Et donc la tourte est un peu cet héritage-là, c'est-à-dire c'est de la farce recouverte de pâtes.
Ouais.
Et là, vous avez des déclinaisons incroyables. C'est évidemment des hachis de viande, mais aussi beaucoup de hachis de poisson pour être servi, pour pouvoir continuer de servir de grands menus, même en période de carême.
Ouais. L'anguille, alors c'est l'anguille, ils mangent des anguilles à longueur de temps, alors qu'aujourd'hui c'est presque un plat de luxe. Hein,
c'est dur d'en trouver, même dans les cours d'eau français, des anguilles. Ça fait partie de ces succulents poissons qui disparaissent des habitudes alimentaires. Et parce qu'il y en a beaucoup, il suffit de poser des nasses pour en récupérer le lendemain. C'est aussi facile à attraper, et ça a une chair qui se qui permet différentes adaptations. Vous pouvez la faire en matelote, c'est-à-dire dans une bouillie revenue dans une sauce au vin. Vous pouvez défilocher, vous pouvez la fumer. C'est souvent comme ça d'ailleurs qu'on la connaît encore aujourd'hui. Et c'est une chair intéressante, mais c'est une chair grasse. Donc c'est un bon poisson pour l'organisme. Et donc c'est l'une des explications qu'on peut avancer pour justifier la présence de l'anguille systématiquement dans
Oui,
quasiment dans,
on
dans
en
tous les plats,
voit
dans tous
partout.
les
Alors,
menus, pardon.
vous l'avez un peu évoqué, on commence à avoir aussi une étiquette des places à table. Alors, est-ce qu'on place déjà l'invité d'honneur à sa droite? Est-ce qu'on a
Oui.
déjà, est-ce que ça, c'est, tout ça est une permanence de 10 siècles, enfin.
Exactement. Vous avez entièrement raison. L'étiquette, le protocole de cour, que ce soit la cour royale, la cour princière, la cour ducale, existe. Il n'est pas encore figé tel qu'il nous est parvenu à partir du 17, du 18e siècle, mais il existe déjà. On a des témoins de la cour de Charlemagne qui est incroyablement régentée et qui ressemble à bien des égards à l'étiquette de Louis XIV à Versailles. Quand le roi mange, il y a un espace symbolique qui lui est réservé, une place en hauteur. Dans ce qui concerne Charlemagne, il mange en musique. On ne lui parle pas, sauf s'il vous donne la parole. Et il est servi déjà par des grands seigneurs ou des hôtes de passage. C'est un honneur que de servir l'empereur Charlemagne. Et donc ça, on le retrouve effectivement. Et dans ces repas, effectivement, vous avez un protocole. On place son invité de marque à sa droite. Il est intéressant de voir que hommes et femmes vivent ensemble, sont mélangés, il y a une réelle, et ça c'est très français, une mixité dans la vie quotidienne et dans la vie de cour, même si selon d'autres événements, il peut y avoir des tables de femmes, des tables d'hommes, mais c'est très rare. Les femmes sont à table avec les hommes, alternent pas forcément un homme une femme comme le ferait une bonne maîtresse de maison aujourd'hui, mais c'est plutôt en fonction du rang, de la place dans la famille régnante, etc., que les places se font à table. Et il y a plusieurs tables. Il y a la table haute, les tables basses, au sens imagé du terme, bien sûr. Bien que la table haute soit au départ une table surélevée, c'est la table d'honneur. Mais il y a il y a plusieurs tables, on ne mange pas à une table unique, d'autant qu'il y a bien souvent beaucoup de monde invité à ces agapes.
Ouais. Et alors, vous parlez à un moment du lavement des mains. C'est parce qu'on mange encore avec les mains. Enfin, on ne prend pas son couteau, par exemple, pour piquer, etc. On
On va
a.
manger très longtemps avec les mains.
Ouais.
On va manger très longtemps avec les mains, mais il y a très tôt une hygiène de table. Ça aussi, il faudrait le rappeler plus souvent. Le mangeur médiéval, dirais-je, n'est pas, si vous me passez l'expression, un gros dégueulasse qui passe des champs ou de la ferme ou de sa, je ne sais pas, de son stand de ferraille pour se passer à table. On se lave les mains à table avant de passer à table, de même qu'on se les lave après le repas. C'est une question d'hygiène qui remonte à loin, qui est aussi défendue par l'Église, prenée par l'Église. Donc c'est vraiment dans les esprits. Évidemment, aujourd'hui, il y a plein de gens qui ne se lavent pas les mains avant de passer à table ou quoi, mais donc c'est pareil comme comparaison, si vous voulez, en termes de proportion. Mais donc, on mange avec les mains. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de fourchette. Généralement, le couteau est propriété de l'invité. On vient avec son couteau. Il peut y avoir, mais là, je vous parle vraiment de la table reculée, une cuillère, mais ou une cuillère qu'on partage avec son voisin. Une cuillère pour deux, en quelque sorte. Et chacun a, en revanche, devant soi ce qu'on appelle un tranchoir. C'est une épaisse tranche de pain sur laquelle on pose les mets. Les morceaux de viande rôtie, etc. On s'essuie les mains sur la nappe. Moi, j'ai aussi une thèse, c'est que on voit souvent sur les tableaux et représentations d'époque, il y a toujours plein de chiens dans les pattes des individus, des noceurs, etc. Je me dis que les chiens pouvaient aussi servir à s'essuyer les mains, tout en leur donnant un os à ronger, on pouvait s'essuyer les mains.
Les mains sur le.
Mais pour parler de la fourchette rapidement, si vous voulez. Elle est avérée à Venise dès l'an 1090. C'est Catherine de Médicis qui vient avec la fourchette dans ses bagages quand elle se marie avec Henri II. Ça va pas prendre. C'est son L'un de ses fils, Henri III, va prendre l'habitude, mais bien plus tard, de manger avec une fourchette. Même à la cour, on va se moquer de lui. Louis XIV refusera toute sa vie de manger avec une fourchette. La Palatine raconte dans sa correspondance que ses petits-enfants, les petits-enfants du roi, ont appris évidemment à manger à la fourchette, mais lorsqu'ils mangent à la table de leur grand-père, interdiction leur est faite de manger avec une fourchette devant lui. Et ça n'est qu'à partir du règne de Louis XV. Donc vous voyez, dans les prémices du milieu du XVIIIe siècle, que la fourchette fait son apparition à table alors qu'elle est arrivée au XVIIe siècle.
Elle n'a rien à voir avec la fraise, contrairement à ce qu'on raconte habituellement. Non. Enfin, la fraise qu'on portait autour
c'est
du cou.
C'est ça. Non, les deux sont contemporains, mais ça n'est que...
Ça n'était pas pour ne pas salir sa fraise.
Non, pas du tout.
Alors écoutez, on va changer d'époque, puis on va arriver au camp du drap d'or, parce que là on s'attend forcément à quelque chose d'extraordinaire. Donc c'est du 7 au 24 juin 1520, et c'est François Ier qui reçoit Henri VIII. Alors vous décrivez un petit peu l'installation, comment est-ce qu'on appellerait ça, l'installation éphémère qui va être mise en place à ce moment-là, mais je suis obligé de vous demander une toute petite seconde de patience, puisque Virginie me fait de grands signes derrière la vitre. Elle a un message à passer aux auditeurs de Radio Courtoisie.
Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Chers auditeurs de Radio Courtoisie, nous sommes de retour dans la deuxième partie du Libre Journal du lundi soir. Je vous rappelle que je reçois Jonathan Sixou, qui publie aux éditions Perrin « Triompher en festin, une histoire de France en 20 repas ». De quoi nous mettre en appétit si à 8h17 vous n'êtes pas encore à table. Et là, nous étions partis pour le camp du drap d'or, la rencontre François Ier, Henri VIII, en 1520. Alors, racontez-nous ça.
Eh bien, tout d'abord le contexte, pourquoi ces deux monarques se rencontrent. Le roi de France, François Ier, est un peu dépité depuis quelque temps parce que c'est son grand rival, Charles Quint, qui a été élu empereur du Saint-Empire romain germanique, ce qui fait que la France se trouve cernée par ce voisin encombrant, pour ne pas dire dangereux, de l'Espagne aux Flandres, en passant évidemment par l'Est. La France est entièrement entourée des terres de Charles Quint. De son côté, Henri VIII, qui est encore catholique, cherche à divorcer.
Et, déjà.
Et il a besoin, espère-t-il, des bonnes relations qu'entretient François Ier avec le pape pour obtenir l'annulation de son divorce. Et François Ier espère trouver en Henri VIII un allié en cas d'agression de Charles Quint. D'où la décision de se rencontrer dans le nord, près de Calais. Et là, c'était extraordinaire. Donc, en ce mois de juin 1520, ce sont des semaines, voire des mois de préparation. Ce sont deux campements. Vous avez d'un côté, séparés de l'un l'autre de quelques kilomètres seulement, le fameux camp du drap d'or, qui est le camp français. On l'appelle le camp du drap d'or parce que les tentes sont brodées, surbrodées de fils d'or. Ça s'appelle des tentes parce que ce sont des tentes, oui, c'est de la toile. Techniquement, c'est des tentes, mais celle du roi fait plus de 30 mètres de diamètre, par exemple. Il y a des coursives, il y a des pièces à l'intérieur même de ces tentes. C'est une sorte de royaume de fées de mille et une nuits, en quelque sorte. Et quand les rayons de soleil frappent ces campements français, on a vraiment l'impression que ce sont des tentes fondues en or.
36 mètres de haut, là, vous donnez le chiffre. C'est...
Et la tente est surmontée d'une statue en or de Saint-Michel, je crois. Et il en est de même pour quasiment toutes les tentes. Ce qui est intéressant, c'est que les factures, en grande partie, nous sont parvenues. Et on voit le travail considérable qui a été effectué par les tisserands de différentes régions de France. Et le campement anglais est tout aussi brillant, mais un peu moins. Mais il y a quand même un truc qui marque les contemporains. Henri VIII, lui, ne veut pas de tente et se fait édifier un château en kit qui marque tous les visiteurs parce qu'il a de grandes fenêtres. Et la fenêtre vitrée n'est pas encore dans tous les châteaux français, loin de là. Ça coûte excessivement cher. Et là, en plus, donc, c'est ce château en kit qui arrive déjà, les murs sont déjà cloués de l'autre côté de la Manche. Il suffit de les assembler comme on l'assemblerait une maison en kit aujourd'hui. Pardon. C'est 14 jours de rencontre, sont l'occasion de beaucoup s'amuser pour les deux souverains, parce que là encore, le repas est une chose, mais le repas est aussi le prétexte à se battre. Il y a des scènes de combat. On sait que François Ier gagne. Ouais. Il y a également...
2 mètres et 100 kilos.
Mais Henri VIII était pas mal dans son genre aussi. Il y a des tournois, beaucoup de tournois. Il y a des courses de chevaux, il y a des joutes. Enfin, c'est un divertissement complet. Là aussi, un jour sur deux, la partie invite l'autre. C'est une démonstration absolue de magnificence côté français. Là, les Français gagnent cette guerre de représentation. Il y a également des concerts qui sont donnés. Enfin, c'est vraiment... On s'y amuse beaucoup, on mange beaucoup, on boit beaucoup. La cour de France resplendit de tout son faste, parce qu'il faut imaginer que toutes ces tentes regorgent de toutes les richesses de la cour, qui sont c'est aussi très médiéval que d'exposer ces richesses, sa vaisselle d'or et d'argent, ses récipients en cristal de roche, des tapisseries en ombre également, elles-mêmes brodées de fils d'or et d'argent. Donc il faut imaginer ce cadre surchargé, surluxueux. Et c'est d'ailleurs davantage ce décorum qui marque les chroniqueurs de cour. Il y en a plusieurs qui sont mandatés par la Cour de France pour relater cet événement exceptionnel. Et ils parlent beaucoup du décorum, de la richesse des tentes, de la variété des décorations, etc. Et la table royale ne les intéresse pas trop. Je pense que c'est parce que la table royale est de toute façon, au quotidien, une table fastueuse. Là, le festin étant par définition un repas qui sort de l'ordinaire, il est difficile de faire encore mieux que le fastueux, si ce n'est à travers quelques symboles. Ce sont toujours, ils reviennent à chaque repas de ces périodes-là, le fameux cygne, le fameux paon. Ce ne sont pas des animaux très bons à manger, mais ils sont chargés d'une symbolique telle qu'on les retrouve à chacun de ces grands repas. C'est durant ce camp du drap d'or qu'aurait fait pour le coup l'apparition première de l'assiette. C'est dans des assiettes qu'auraient mangé pour la première fois en France François Ier et Henri VIII, mais toujours, comme je vous le disais tout à l'heure, avec la main et un couteau, en musique. La musique a des parties différentes qui marquent très précisément des temps de symboliques du repas. Vous faites votre entrée dans la salle de festin aux trompettes et clairons, mais le temps de la dégustation, lui, se fait accompagné de cordes pincées, de luttes, et commence dans cette période de la Renaissance à faire l'apparition des entremets. L'entremets, c'est entre deux mets, entre deux plats, une pièce qui est jouée, une courte pièce, soit de théâtre, soit une pièce chantée. Et l'entremets va devenir au fil du temps un plat en soi, plat qu'on sert entre deux plats. Ouais. C'est l'entremets. Mais au camp du drap d'or, l'entremets est encore réellement une partie de divertissement. Ça serait l'équivalent, parce qu'il arrive bien plus tard, d'un trou normand, si vous voulez. On se repose un petit peu. Mais les repas durent en moyenne, selon les observateurs, au minimum 4 heures à peu près. Et il y en a plusieurs par jour. Et ce qui est marquant également, c'est de voir les goûts de François Ier, qui sont des goûts quasiment antiques, romains. Il adore le sucré salé, il fait même saupoudrer ses poissons de sucre glace. Mais c'est aussi évidemment un grand mangeur de viande. Je reproduis les quantités... fabuleuse ou écœurante, c'est selon d'aliments qu'on consommait durant ces 14 jours. Il y a du monde. Il y a 3000 membres de cour dans des deux côtés. Donc ça fait évidemment du monde.
Ouais, 3000 moutons, 800 veaux, 300 bœufs, 666 000 litres de bière, 200 000 litres de vin. Il faut dire qu'on le faisait couler à des fontaines. Donc, oui. J'imagine qu'on devait récupérer quand même
avec au fur et
à mesure.
Oui.
Voilà. Alors, l'addition est estimée à l'époque à 30 500 livres, disons, ce qui ferait 2,5 millions d'euros aujourd'hui.
Ce qui est considérable par rapport à ce qu'on aurait pu, entre guillemets, acheter avec 2 millions d'euros à l'époque, c'est-à-dire un état, quasiment.
Ouais.
Ce qui est amusant avec le temps, c'est que ce fabuleux camp du Drap d'Or est une réunion de dupes
ouais,
à l'issue de ces 14 jours. Mais c'est aussi une grandeur très française, une naïveté, une certaine naïveté française aussi de la part de François Ier, de croire que parce qu'on s'est amusé, de croire que parce qu'on on a bien mangé, on a bien bu, qu'on se quitte bons amis, et bon, on va le demeurer. Ils n'ont rien signé à l'issue de ces 14 jours.
Ah oui.
François Ier regagne Paris avant d'aller à Fontainebleau. Et Henri III, de son côté, que fait-il? Il n'embarque pas tout de suite pour regagner l'Angleterre. Ben, non loin de son campement, qui va mettre un peu de temps à être démonté, ben, il va rencontrer Charles Quint.
Voilà.
Et là, les deux hommes vont...
La perfide Albion.
Et voilà, les deux hommes ne vont pas ripailler autant qu'avec François Ier, mais il va découler un accord qui va permettre à l'Angleterre d'être un allié objectif de Charles Quint,
ouais.
À la face et à la barbe de François Ier.
Enfin, François Ier a une très grande réputation, mais qui est un peu surfaite, si j'en crois ses biographes,
voir.
Dont
oui.
Didier Le Fur récemment. Oui. Alors, il y a aussi une réaction. Il y a des gens qui disent non, il faut pas manger comme ça, et qui font l'éloge de la diète. Alors, c'est juste pour qu'on, nous aussi, on fasse notre petit trou normand.
Oui,
là, je vois Nicolas de la Chesnaye qui écrit une condamnation du banquet, et puis avec un poème que vous citez, bon, qu'on ne va pas lire, mais...
Mais c'est très intéressant, j'étais très content de trouver ce petit texte, parce que ça montre qu'effectivement, ça n'est pas le fantasme de tout le monde de manger autant et d'avoir une telle table, une telle débauche de nourriture, de boissons... Et c'est intéressant de voir que très tôt, finalement, il y a des consciences éveillées pour dire, pour appeler à la pondérance, pour appeler à non pas à la diète, mais à une certaine retenue, et de manger correctement, certes, mais avec modération, un peu de tout. Autant dire que c'est pas très respecté, mais c'est intéressant de voir que la critique, elle n'est pas du tout politique. Et ce n'est pas une critique politique déguisée par la c'est vraiment alimentaire, pour le coup.
Ouais. Alors, juste, puisque nous, de temps en temps, on bifurque sur l'actualité, vous nous dites que le Shah d'Iran, le dernier, a essayé d'imiter le camp du Drap d'Or au moment des festivités de Persépolis.
Exactement. C'est en 1971. C'est les fameuses fêtes organisées à Persépolis, et c'est clairement revendiqué comme étant un pastiche du camp du Drap d'Or, puisque dans ces plaines des montagnes iraniennes, le Shah invite des centaines de chefs d'État, de gouvernement, de têtes couronnées pour plusieurs jours de spectacles, de reconstitution historique, et tous ces dirigeants logent dans des tentes.
Bon film qui montre tout ça, c'était des tentes un peu comme celles de François Ier.
Exactement,
ça
n'a de tentes que de nom. C'est là aussi des sortes de maisons de luxe en toile, jusqu'au dîner marquant, célébrant cet anniversaire millénaire de la lignée du Shah. Je reproduis d'ailleurs ce
menu. Il y a le menu. C'est
une tente est spécialement dressée pour être la salle à manger durant ces festivités. La table fait plus de 70 mètres de long et on fait remarquer qu'elle est tissée dans un seul corps de soie et de coton,
ouais,
et non pas cousue par petits bouts. Et un grand menu français mélangeant différentes...
Champagne, mouette et chandon 1911. J'imagine que ça doit être l'avènement des Palavis, ça, 1911. Enfin bon, parce qu'on le verra peut-être tout à l'heure, mais enfin, on peut en parler tout de suite. De temps en temps, nos chefs d'État font des petits clins d'yeux à leurs invités, notamment la reine d'Angleterre qui a eu droit au millésime de son mariage, c'est ça, avec le duc d'Édimbourg.
Ça,
c'était Kennedy et sa femme.
Exactement.
Voilà,
c'était à la table du général de Gaulle.
Voilà.
La reine Elisabeth II, pour son dernier dîner d'État en France, est invité à l'Élysée et c'est le et le protocole a la délicatesse de glisser dans le menu voilà. qui avait été servi à ses grands-parents au début du siècle, la date correspondant à peu de choses près à cette visite de la reine d'Angleterre. La reine qui, pour la petite histoire, malgré son expérience hors du commun, extraordinaire au plein sens du terme, jusqu'à la fin, attendait avec impatience, quand elle venait en France, le dîner d'État, parce qu'elle savait qu'elle aurait du foie gras dont elle raffolait, et qu'elle aurait cette cuisine élyséenne qu'elle appréciait plus que tout.
Ouais. D'ailleurs, il faut, bien sûr, sur cette antenne, qui est celle de toutes les droites et de tous les talents, il arrive de critiquer un petit peu le chef de l'État actuel, notamment. Je pense qu'on critiquait le précédent aussi. C'est quand même quelque chose d'assez important. C'est-à-dire que quand on l'a beaucoup critiqué pour avoir commandé un nouveau service de Sèvres il y a 2 ans ou 3 ans, en fait, si l'Élysée ne commande pas de service de Sèvres, on va fermer la manufacture. Donc, il y a tout un cycle de grand art français à ce moment-là qui est mis en péril. Et en plus, il ne va pas l'emporter avec lui au Touquet lorsqu'il partira, c'est-à-dire bientôt.
C'est aussi ça la mission du président de la République, dans cette République que certains disent monarchique. Le président de la République poursuit un mécénat digne de l'ancien régime, comme à partir de Louis XIV, des commandes d'État étaient faites aux manufactures royales pour faire marcher ce commerce du luxe et ce savoir-faire français. L'Élysée continue de passer des commandes régulièrement à des manufactures nationales, dit-on aujourd'hui, pour c'est une sorte de mission que la France, que les dirigeants français, qu'ils soient d'anciens ou de nouveaux régimes, si je puis dire, continuent d'exercer. Et ça, je trouve que c'est une exception qui est admirable.
Oui, puis il faut voir.
Et ça n'a aucun rapport avec la couleur du président.
Oui, bien sûr. Ouais,
Ce sont des missions régaliennes, si je puis dire, là aussi, dans ces domaines artistiques.
Oui, et puis il faut voir ce que c'est que la manufacture de Sèvres. Hein, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Moi, j'ai eu la chance d'assister à la fabrication d'une assiette de A à Z. Ouais. C'est absolument extraordinaire. Si on ne donne pas de travail à cette manufacture, elle va disparaître. Et là, tout le monde va pleurer en disant on est obligé de manger dans du Ikea ou que Sèvres encore.
Vous avez parfaitement raison, parce que ce sont des savoir-faire, des métiers d'art qui disparaissent progressivement.
Alors, il est 20h32 sur Radio Courtoisie. Maintenant, c'est l'heure d'être un peu coquin. On va aller au Palais Royal. Alors évidemment, là, c'est pas un banquet très festif, non, puisque c'est le dernier repas de Le Pelletier de Saint-Fargeau, qui est un député à la Convention, qui a voté la mort du roi, et qui, je ne sais pas s'il veut aller fêter ça, mais enfin, il veut aller dîner ce soir-là au Palais Royal, dont vous nous dites qu'elle est peuplée d'une armée de plaisir. Vous donnez le chiffre 20 000 prostituées au Palais Royal, ça en faisait quand même beaucoup.
Oui.
Et donc, il vient de voter la mort du roi, il se dit « Allez, je vais aller dîner ce soir ».
C'était quelqu'un d'austère, Le Pelletier de Saint-Fargeau. Un proche de Robespierre, un proche de Saint-Just, on n'imagine pas un type très, très, très rigolo. On est à ce moment-là, donc le 20 janvier 1793, il a voté la mort du roi. Et après avoir voté la mort du roi, il a ses habitudes. Il faut savoir que l'Assemblée, à ce moment-là, n'est pas là où elle se trouve aujourd'hui. Elle est du côté de la rue de Rivoli, accolée à ce qu'est la rue de Rivoli aujourd'hui et le jardin des Tuileries. C'est l'ancien manège. Donc, il n'est pas loin du Palais Royal. Le Palais Royal, c'est ce quartier de plaisir invraisemblable quand on sait aujourd'hui la belle endormie que c'est devenu. C'est un lieu qui appartient au duc d'Orléans. C'est lui qui l'a loti avec les arcades qu'on connaît aujourd'hui. Il y a des maisons closes, des cabarets, des pièces de théâtre, des petits théâtres clandestins, des caves au grenier réellement de tous les numéros du Palais Royal, c'est d'une folie totale. Vous rajoutez à cela des antiquaires, de grands marchands de tableaux ou de meubles, des orfèvres. C'est un mélange très parisien de tout. Et à la faveur de la Révolution naît quoi ? C'est là aussi que le Palais Royal entre dans l'histoire. Naissent les restaurants. La noblesse partie en exil ou tuée sur l'échafaud laisse des chefs cuisiniers sans travail. Donc ils décident d'ouvrir ces établissements qui n'existaient pas. Le premier né dans les années 1765 dans le vieux quartier du Louvre, mais c'est encore très très marginal. Et c'est, ce quartier du Palais Royal est à la mode, et différents chefs vont donc ouvrir des établissements plus ou moins luxueux. Il y en a des très très chics, très très de très grandes tables, telles que Méraud et Véry, mais il y a également des tavernes. C'est le cas de la taverne de Février. Février, c'est le nom de son tenancier. Et c'est là que le pelletier de Saint-Fargeau, qui a des goûts plutôt austères, a ses habitudes. C'est une sorte de salle, de cave, de caveau demi-enterré. Et il a ses habitudes dans une sorte de petit salon particulier où il mange seul. Et ce 20 janvier au soir, comme d'habitude, il prend sa place dans ce petit salon. Et alors on vient de lui apporter... passe sa commande, on vient de lui apporter sa soupe de légumes. On sait qu'il a commandé une soupe de légumes.
On est loin du drap d'or, là, oui.
Non. Un homme l'appréhende à côté de lui, lui demande s'il s'appelle bien le pelletier de Saint-Fargeau. Est-ce que vous avez bien voté la mort du roi ? Le pelletier de Saint-Fargeau dit oui aux deux, et j'en suis fier, ajoute-t-il. Et là, cet homme tire un sabre et le transperce. Cet homme s'appelle Paris. On ignore encore aujourd'hui par qui il a vraiment été envoyé, parce que ce n'est pas lui qui a pris l'initiative d'assassiner le pelletier. Mais cet assassinat va vraiment être un basculement dans la Révolution, parce que ça va être le premier martyr de la Révolution, et ça va permettre surtout aux Jacobins de purger les Girondins. Et à partir de là, le parti robespierriste va mettre la main sur tout, et surtout les postes clés notamment, et tous les mécanismes de la Révolution. Pourquoi j'ai parlé de ce repas-là ? Parce qu'en plus, on sait qu'il n'a mangé qu'une soupe de légumes, mais parce qu'on sait beaucoup de choses...
Parce que vous en aviez assez avec le reste, c'est ça ? Vous avez voulu reposer.
Me reposer un peu. Non, parce que je dis aussi tout ce qu'on mange dans les autres établissements du Palais Royal. Et il est marquant de voir que, alors que les Parisiens crèvent littéralement de faim durant la Révolution, les premiers tickets de rationnement sont inventés dans l'histoire par le comité de salut public pour que les Parisiens aient du pain, et eux, le soir, vont banqueter dans ces riches établissements dont je vous parlais, Méraud, Véry ou autres, dans des salles d'un luxe inouï, et à des plats d'une richesse incroyable pour tous ces révolutionnaires. C'est l'occasion aussi pour moi de raconter le climat de Paris à la veille de l'exécution du roi. C'est pas une exécution comme les autres. Il y a un climat insurrectionnel dans Paris, parce qu'on s'attend, personne ne croit, même le bourreau, même Samson lui-même, je le cite parce qu'il l'écrit dans son journal, lui, il ne croit pas possible que les Français vont laisser guillotiner leur roi. Et jusqu'à la dernière minute, il le raconte, Samson, dans son journal, lui-même est armé, il a des pistolets dans ses bottes et dans ses poches, tous ses aides sont armés. Pourquoi ? Pour couvrir la fuite du roi, parce qu'il dit quelqu'un va venir le charger, il va arriver, et donc ça... Et en fait, non, personne n'arrive. Et dans ce climat hyper tendu, il y a des centaines de milliers de soldats supplémentaires qui sont arrivés dans Paris pour tenir la population, parce qu'on ne sait pas quelle va être la réaction populaire, finalement, une fois que le roi sera tué. L'exécution a lieu, comme on le sait, dans un silence de mort. Il n'y a pas de hourra, de vive la révolution qui est prononcée place de la révolution ce jour-là. Il n'y aura pas non plus d'insurrection populaire. Mais on ignore trop, me semble-t-il, le climat réel de Paris durant ces journées charnières. Occasion aussi, vous soulignez en début de chapitre, si je puis dire, que le Pelletier a voté la mort du roi, de citer un autre observateur de ces temps, qui est Louis-Sébastien Mercier, qui va mettre son nez à la convention pour voir comment ça se passe. C'est un joyeux bazar. Il y a encore des femmes qui ne sont pas toutes de haute vertu, qui sont dans les galeries ouvertes au public. On mange, on boit, on s'invective. Et en bas, vous avez le roi qui écoute monter les uns après les autres, tous les députés, voter la mort avec sursis ou la prison. Ça paraît totalement surréaliste qu'une telle décision si forte... Oui. Oui. Se passe dans un climat si léger, d'une certaine façon.
On parlait au conseil municipal de Creil, alors si...
Vu la pente que prennent les choses, on se dit qu'effectivement, Robespierre n'est pas loin.
Alors, ce drame de l'exécution de Louis XVI, il a quand même... Alors ça, je dois dire à nos auditeurs, qu'il faut absolument qu'ils vous lisent, parce que, évidemment, vous racontez gravement les choses graves, mais de temps en temps, vous racontez légèrement les choses légères. Et alors, c'est vrai dans cet ouvrage de Triompher en festin, mais c'est vrai aussi dans votre ouvrage qui s'appelle Capital, on n'aura peut-être pas trop le temps d'en parler, mais qui est un livre assez extraordinaire sur les grands malheurs de Paris, mais fait avec une certaine légèreté. Puis là, la mort de Louis XVI, vous nous racontez, d'ailleurs vous le racontez dans ce livre, les festins, mais vous le racontez aussi dans l'autre, cette tradition de la tête de cochon farcie servie le 21 janvier.
Exactement.
Alors, vous voyez, il y a toujours un petit côté, alors à la fois la soupe de légumes de Le Pelletier de Saint-Fargeau qu'il n'a pas terminé probablement, et cette tête de cochon.
Alors la tête de cochon, c'est une tradition qui ne prendra jamais, si je puis dire. Elle va être suivie par quelques ultras révolutionnaires. Mais ce n'est pas, l'idée étant effectivement de servir une tête de cochon chaque 21 janvier pour célébrer... d'une façon un peu morbide, l'exécution de Louis XVI. Je cite notamment un personnage qui est une figure de la Révolution à Paris, qui s'appelle Palois. C'est étonnant de voir qu'il a totalement disparu des radars, alors qu'il a vraiment été un personnage haut en couleur. Le 14 juillet au soir, lui est entrepreneur de son État. Et parce qu'il est entrepreneur et entreprenant... le 14 juillet au soir, il s'accapare la Bastille en disant, en gros, la Bastille est à moi. Et il commence dès le 14 juillet au soir, parce qu'il a les moyens humains en ouvrier de par sa profession, d'avoir suffisamment d'ouvriers pour commencer à démanteler les pierres de la Bastille. Et ça va prendre un peu de temps à qu'on réalise ce qu'il est en train de se passer. Vous imaginez bien qu'il y avait d'autres obligations
L'administration
dans le
était
même
un
temps.
Peu désorganisée.
Voilà. Mais assez vite, on réalise qu'il s'accapare un bien national quand même, donc il y a un problème. Il y a un procès, mais il le gagne. Il arrive finalement à dire, en gros, partageons. Et il va se faire le démanteleur de la Bastille. C'est lui qui va inventer les objets souvenirs, c'est-à-dire que dans les pierres de la Bastille, de l'éclat de pierre à la grosse pierre de taille, il va tailler des mini-Bastilles. Il va les envoyer à ses frais à toutes les délégations de France pour se montrer hyper patriote, etc. Aujourd'hui, on dirait qu'il veut être sur la photo. Il veut absolument être ami et en bon terme avec tout le monde. Et il va réussir ce prodige en étant sur la photo jusqu'à la Restauration et à recevoir des rentes de l'État jusqu'à la Restauration et jusqu'à sa mort sous le règne de Charles X, il me semble.
Oui, c'est ça. Il se qualifie lui-même de patriote, c'est constitutionnel, royaliste, etc. Et Charles X lui donne 500 francs de pension.
C'est ça. c'est là. Et donc, ce fameux Palois, qui veut être plus révolutionnaire que les révolutionnaires, d'une façon un peu solitaire, il faut bien le dire, va se faire servir une tête de cochon tous les 21 janvier. Mais il va finir par mettre fin à cela.
Alors écoutez, on est obligé de passer, et on passe même des banquets dont j'aurais aimé parler, par exemple la réception de Nicolas II, l'empereur de Russie, en 1896. Mais il y a quelque chose dont il faut parler, c'est le plus grand banquet de tous les temps, le banquet des maires de France du 22 septembre 1900. Alors, c'est l'exposition universelle, les maires viennent à Paris, et le président de la République, Émile Loubet, les invite à dîner.
À déjeuner, plus précisément.
À déjeuner, pardon.
Il faut imaginer, en cette année 1900, que la République est triomphante. La Troisième République est triomphante. Elle a passé les années difficiles, des années incertaines pour elle-même, des années 1880. Mais passer ces années difficiles, après avoir aussi fait avoir pris des décisions symboliques, mais tout de même fortes. Je pense à l'arasement des ruines du palais des Tuileries qui pouvait être rehaussé, puisque les fondations étaient en bon état. Je pense à la vente des joyaux de la couronne, quasiment à perte d'ailleurs, à des joailliers américains. Là, ça y est, l'ancien... Et puis, avec la disparition aussi des royalistes qui pouvaient encore exister dans le paysage actif politiquement... Là, il n'y a plus rien de tout cela. La menace est passée. la République est triomphante, elle est là, elle peut même donc se permettre, comme je m'amuse de le souligner, de nommer à la table élyséenne des plats à la Richelieu, à la Soubise, à la Maintenon, etc. Elle peut se permettre de manger à proprement parler l'Ancien Régime, puisqu'elle l'a maté. C'est aussi l'époque où la France est, elle se présente comme telle, mais elle l'est en grande partie, le fameux phare qui éclaire le monde occidental. Et cette expo de 1900 est l'expo de tous les superlatifs. Tout est grand, tout est inédit, tout est hors norme. Aussi, lorsqu'il est décidé d'organiser ce repas des mères, il est décidé, dans toute simplicité, d'organiser le plus grand, et mes mots sont pesés, le plus grand repas assis de l'histoire de l'humanité. Et ça n'est pas une expression galvaudée, puisque ce jour-là vont s'asseoir, pour un déjeuner qui ne va durer qu'une heure et demie, plus de 23 000 personnes. Ouais. Il n'y a qu'une maison qui sait faire ça depuis...
Depuis toujours depuis et encore toujours. Aujourd'hui.
Mais on fait plus de grands repas comme ça aujourd'hui. Ouais, ouais. C'est la maison Potel et Chabot. Je la cite parce que c'est une institution historique.
Oui, et puis à plusieurs reprises d'ailleurs, puisqu'elle en fait d'autres.
Exactement. Elle commence ce prodige de savoir faire des repas pour des milliers de personnes dès la Restauration d'ailleurs. Et c'est Napoléon III qui va être un fervent client cette célèbre maison. Et c'est elle donc, c'est à elle qu'on s'adresse pour réaliser ce repas. C'est un repas qui est servi froid. Vu quand même l'étendue des tables à servir et la rapidité du repas, mais qui nécessite énormément de préparation en amont, parce qu'il y a des pâtés, il y a des canards reconstitués, il y a énormément de choses qui constituent un travail. Il y a du poisson un saumon à la parisienne, c'est d'ailleurs un saumon poché servi avec une macédoine de légumes notamment. Un mot sur l'emplacement, parce que où dresser une table pour accueillir 23 000 personnes à Paris, ben c'est encore au Jardin des Tuileries. Ouais. Quand on connaît les lieux, pour les personnes, les auditeurs parisiens ou visiteurs de Paris, le Jardin des Tuileries, côté rue de Rivoli, est bordé par un immense espace laissé vide, encore aujourd'hui. C'est dans cet emplacement que vont être plantées deux ou trois tentes de 500 mètres de long, qui vont chacune accueillir donc des centaines de tables. Il y a la table haute, dans une vieille tradition, comme on le disait en début d'édition royale, une table haute où il y a le président de la République avec le président du Sénat, des grandes institutions. Et c'est rangé linéaire. Il y a une photo qui est reproduite dans le livre d'ailleurs. On ne voit pas la fin. L'objectif photo est incapable d'aller jusqu'au bout de la tente, tant ces tentes sont infinies. Et on mange, on boit. Il y a une très bonne ambiance un peu partout. Je crois que c'est le quotidien, le temps, qui a mandaté un certain Gaston Leroux pour chroniquer l'événement. Et il en parle très très bien. Il parle de ces tables sans fin, il essaie d'arpenter ces tentes qu'il ne peut pas arriver jusqu'au bout. Il parle et chaque, évidemment, sur ces longueurs, c'est en fait une sorte d'association de différents petits dîners, de différents petits déjeuners par groupe qui se retrouvent côte à côte. Et tout le monde a bien mangé, surtout tout le monde a beaucoup bu.
Eh oui, on a bu du Prégnac et du Saint-Julien en carafe, du Haut-Sauterne, du Beaune, du Margaux Calvé 1887. Alors à l'époque, peut-être que ce n'était pas aussi exceptionnel que...
Peut-être moins, effectivement.
Oui, voilà. Et puis on a terminé par un petit champagne Montebello.
Voilà. Puis, ce n'est peut-être pas précisé, mais c'est une époque encore où on ne quitte pas la table à avoir pris au moins un verre de liqueur après le repas. Il est décidé au programme que tous ces hommes, qui arrivent donc quasiment pour la plupart d'entre eux de province, d'aller visiter l'Expo universelle par délégation. Et Émile Loubet, lui, a d'autres rendez-vous dans la journée. Au moment où le président de la République se lève pour rentrer à l'Élysée, qui n'est pas très loin à pied du palais des Tuileries, eh bien, tous ces maires veulent rester autour du président de la République. Il y a une bousculade un peu avinée, c'est pas très précis, mais effectivement, il y a un service de sécurité, la police, qui veut les contenir, mais face à la marée humaine et à la bienveillance qui se dégage malgré tout de tout cela, on les laisse partir à l'Élysée, et là va s'improviser une sorte de garden party avec tous ces messieurs un peu amochés quand même.
Ouais, ils avaient chanté oui. La Marseillaise, évidemment, et comme il était l'heure de partir, ils avaient chanté le chant du départ avant d'accompagner le président jusqu'à l'Élysée. En même temps, c'est formidable de parler de ça, de lire ça aujourd'hui, parce que, évidemment, les maires... Ça ne sont plus aussi choyés, j'ai l'impression, même au Congrès des maires.
Plusieurs, même au Congrès des maires, mais plusieurs époques, effectivement, trouvent un écho pas très gai aujourd'hui. Même ce qu'il en est de vous parliez de la réception offerte à Nicolas II en 1896, mais il y a aussi des retours de l'histoire un peu tragiques, quand on voit la qualité de l'entente franco-russe pendant si longtemps et de voir où les événements nous mènent aujourd'hui, c'est aussi à déplorer. C'est pour ça aussi que c'est aussi pour nous souvenir et pour faire qu'on se souvienne de la qualité d'entente et d'accord entre deux grands pays qui ont été la France et la Russie. C'est aussi une manière de savoir d'où on vient aussi.
Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va revenir au livre, mais aujourd'hui, on a quand même tendance à oublier que dans la population française, il y a, un goût pour la Russie. Je ne sais pas comment le dire, c'est peut-être pas de l'amour, mais enfin, il y a un intérêt, un goût et presque une amitié naturelle entre le peuple français et le peuple russe. On ne parle pas des dirigeants, évidemment.
Bien sûr.
Et donc, comme en plus, on n'a plus le droit de le dire en ce moment, d'ailleurs, ce qu'on vient de faire, avec tous les risques que ça comporte, il y a vraiment des choses assez incompréhensibles. Et
c'est pour ça qu'il faut le rappeler dès que l'occasion se présente, effectivement.
Et puis là, c'est 1896, donc on ne risque pas grand-chose. Alors, il faut qu'on parle de Gaulle. Il faut toujours parler de Gaulle, d'abord parce que je sais que beaucoup de nos auditeurs vont être agacés par le fait que nous parlons de Gaulle, mais d'autres vont être très contents. Donc on va faire plaisir à tout le monde, si je puis dire.
Allons-y.
Avec ce déjeuner de la transmission des pouvoirs, le 8 janvier 1959, donc entre De Gaulle et son prédécesseur à l'Élysée.
Oui, Monsieur Coty.
Voilà.
C'est pas Coty. Si, c'est Monsieur Coty.
Oui, oui.
Transmission des pouvoirs, avec quelque chose d'inédit dans l'histoire. C'est pas une transmission, c'est une transmission des pouvoirs, mais également un changement de république qui arrive à l'Élysée. L'Élysée, jusqu'à cette transmission, donc en 59, l'Élysée, on connaît donc la constitution de la 4e République, le pouvoir est aux mains du président du Conseil, en gros le premier ministre d'alors, dirions-nous, et le président de la République est un rôle honorifique, certes très prestigieux, mais honorifique. Et le palais de l'Élysée est une sorte de maison de retraite pour le président de la République, dont on le sort pour aller inaugurer les chrysanthèmes, mais c'est pas pour vous donner un exemple, le président et son épouse occupent tout le premier étage de l'Élysée pour ses appartements personnels. C'est pas un lieu d'extraordinaire réception, le palais de l'Élysée. Et encore, quand il organise des réceptions, bien souvent, même les élus n'y vont pas. Ça vous montre qu'on s'y ennuie beaucoup aux réceptions de l'Élysée. Tout change avec la 5e République. Le cœur du pouvoir devient le siège de la présidence, donc le palais de l'Élysée, qui n'est absolument pas bâti pour ça. Cet hôtel du 18e siècle n'est absolument pas fait pour accueillir une administration, et surtout une administration moderne, c'est-à-dire avec des dizaines, voire des centaines de conseillers, avec des réunions techniques, avec un travail diplomatique intense. Et le général de Gaulle comprend quand même une chose, c'est que la table, le repas français, joue un rôle crucial, non pas en termes de puissance, mais en termes de vitrine, de soft power, comme on dit en anglais. Et il va, inspiré par le goût du faste de l'Ancien Régime, restaurer aussi une certaine grandeur de la table française. Lui n'est pas un grand amateur. Il aime correctement manger, mais il aime les plats rustiques, il aime l'oreille confite, il aime
c'est dur à servir à la reine d'Angleterre, ça.
Oui, mais c'est de cela dont il se nourrit quand il est à la Boissière, par exemple. Mais la table française, à ce moment-là, sous son règne, reproduit les grandes recettes des grands chefs français. Ça va de Carême à Escoffier, surtout Escoffier qui... on n'en a pas parlé, mais c'est un chef génial à qui la cuisine française et le rayonnement mondial, planétaire de la cuisine française doit énormément. Et Escoffier est l'un des meilleurs théorisateurs et praticiens de la simplification de la cuisine française, regardant de grandes recettes, mais les dégraissant, les simplifiant, simplifiant les recettes tout simplement. Et c'est ce type de plat qui commence à être servi à la table élyséenne, à partir du général de Gaulle, effectivement. Ce sont des grandes recettes de turbo, mais le général, en fait, pour honorer ses invités de marque lors des dîners d'État, sert des choses relativement simples, mais le nec plus ultra, les meilleures viandes, les meilleurs crustacés, les meilleurs poissons, évidemment les meilleurs vins aussi. Il reçoit énormément avec son épouse, et ce sont des réceptions considérables qui finissent même par le fatiguer, et donc au bout de quelques années, il va moins recevoir. Et ça va jouer un grand rôle aussi pour le rayonnement de la France, parce qu'il va, après les aventures du Second Empire notamment, il va réoccuper, si je puis dire, le château de Versailles. La République s'était cantonnée à l'Élysée, au ministère des Affaires étrangères, jusque-là, et lui décide, pour un protocole supérieur à d'autres, d'ouvrir la Galerie des Glaces pour en faire un lieu de réception incomparable sur Terre. Autant vous dire que tout le monde se bat pour être invité, pour être reçu lors d'une visite d'État au château de Versailles. Et ça, le général choisit un peu comme il l'entend. Évidemment, il y reçoit les Américains, les Russes, mais il le refuse parfois à d'autres chefs d'État, voire des têtes couronnées même, parce qu'il estime que la lignée n'est pas assez... Enfin voilà, mais c'est un peu obscur comme décision présidentielle.
Bon, écoutez, ce jour-là, en tout cas le jour du déjeuner de Gaulle-Coty, on a mangé de la selle d'agneau. Et puis, on a bu du Heidsieck Dry Monopole 1947. Tout ça pour passer d'une république à l'autre.
C'est ça.
Écoutez, Jonathan Sixou, je vous remercie beaucoup d'avoir passé ce début de soirée avec nous. Je rappelle que vous publiez « Triompher en festin, une histoire de France en 20 repas ». C'est vraiment une histoire de France en 20 repas. Ce n'est pas l'histoire de 20 repas de l'histoire de France. C'est paru chez Perrin, mais je conseille aussi... votre ouvrage sur les malheurs de Paris, c'est dommage, on n'a pas eu le temps d'en parler, parce que vous parlez des malheurs de Paris avec le sourire et avec des anecdotes assez peu connues, finalement. Donc, c'est paru, ça, aux éditions du Cerf,
Capital,
en 2021.
Et en poche en 2023, même.
Voilà. Eh bien, écoutez, je remercie les auditeurs de Radio Courtoisie de nous avoir suivis. Je leur rappelle les conseils de lecture de ce soir, et puis je leur conseille aussi d'aller voir le film de Xavier Giannoli, Les rayons et les ombres, un film qui dure 3 heures, mais qu'on trouve finalement trop court à la fin du film. C'est en ce moment dans toutes les bonnes salles de cinéma. Pour ma part, je vous donne rendez-vous le mois prochain avec un nouvel invité et la chronique du Grand Large de Patrick Simon. Bonne nuit à tous.
Vous venez d'entendre le Libre Journal du lundi soir, dirigé par Thierry Lenz. Diffusé en direct sur Radio Courtoisie, lundi 30 mars 2026 de 19h30 à 21h et réalisé par Virginie. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.